d'écouter RFI, les 23h à Paris, 21h temps universel.
Mathis Limano.
Aux États-Unis, les frères ennemis continuent de se déchirer. Donald Trump et Elon Musk, le multimilliardaire et ancien membre du gouvernement, a ouvert la porte à un coup de fil aujourd'hui pour apaiser les tensions. Réponse du président américain, ce pauvre homme a un problème, je ne pense même pas à lui. Les États-Unis qui s'apprêtent à se barricader, lundi débute le travel ban, l'interdiction d'entrer aux citoyens de 12 pays. Parmi eux, le Venezuela, reportage à suivre dans la capitale Caracas. 84 milliards d'euros d'amendes effacées par la justice japonaise. Ce sont des responsables de la centrale de Fukushima qui devaient s'en acquitter. Une décision de justice qui indigne, vous l'entendrez. Et puis, Novak Djokovic dit au revoir à la terre battue parisienne. Le Serbe, triple champion à Roland-Garros, s'est fait sortir en 3 manches par le numéro 1 mondial Yannick Sinner, qui rejoint Carlos Alcaraz en finale. Le torchon continue de brûler entre Donald Trump et Elon Musk. Des tensions entre les anciens alliés qui ont débuté par la critique acerbe du multimilliardaire sur un projet de loi budgétaire. Depuis, les deux hommes s'invectivent sur les réseaux sociaux. Et contrairement à ce qu'avait annoncé la presse américaine, ils ne se sont pas appelés aujourd'hui pour calmer les choses. Et pendant que Donald Trump fait monter une petite musique sur l'état psychologique d'Elon Musk, un homme qui a complètement perdu les pédales, eh bien c'est l'économie américaine qui en pâtit. Outre les pertes faramineuses de Tesla en bourse, plusieurs dizaines de milliards de dollars, Théo Conscience, c'est au-dessus du secteur de l'aérospatial que l'inquiétude plane.
Le programme spatial américain s'est retrouvé hier au cœur de cette passe d'armes par réseaux sociaux interposés. Après que Donald Trump a menacé sur Truth Social d'annuler les contrats d'Elon Musk avec l'État, le milliardaire a annoncé sur X qu'il allait mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, le seul habilité à acheminer des astronautes depuis les États-Unis jusqu'à la Station spatiale internationale. Si Elon Musk a finalement fait marche arrière quelques heures plus tard, il a néanmoins exposé au grand jour sa capacité de nuisance. Selon la numéro 2 de SpaceX, Gwynne Shotwell, l'entreprise compte pour 22 milliards de dollars de contrats avec l'État américain. La majorité est liée à la NASA au travers de la navette spatiale Dragon et du programme Artemis qui doit permettre de renvoyer des astronautes américains sur la Lune en 2027. Mais une bonne partie de ces contrats concerne aussi le Pentagone. SpaceX lance régulièrement des satellites de renseignement de l'armée américaine et le ministère de la Défense a également commandé à l'entreprise la construction d'une version plus sécurisée du réseau de satellites Starlink pour les communications militaires.
Théo Conscience, rendez-vous est donné lundi à Londres entre Américains et Chinois. Négociateurs des deux pays tenteront de trouver un accord pour résoudre la guerre commerciale lancée par Donald Trump. La délégation américaine sera composée des ministres des Finances et du Commerce. Cette réunion devrait bien se passer, a écrit Donald Trump sur son réseau social. Kilmar Abrego-Garcia est rentré aux États-Unis, annonce du ministre de la Justice. Cet immigré salvadorien avait été expulsé à tort au Salvador. Son retour aux États-Unis met un terme à près de 3 mois de bataille entre la Cour suprême et le gouvernement, sommet de le ramener. Et quand l'administration américaine n'expulse pas, elle interdit l'entrée aux ressortissants d'autres pays, 12 précisément. La mesure sera effective dès lundi. Une autre liste de pays est concernée par ce travel ban avec des restrictions partielles. C'est le cas notamment du Venezuela, pays rongé par la crise. Des millions de Vénézuéliens ont quitté le pays ces dernières années. Et cette nouvelle mesure intervient alors que le statut de protection temporaire permettant de vivre et de travailler aux États-Unis a déjà été retiré par l'administration Trump. Reportage à Caracas, Alice Campagnol auprès d'une mère de famille inquiète à l'idée de ne pas revoir ses enfants exilés aux États-Unis.
Pourquoi renouveler mon visa maintenant ? Pour pouvoir voir mes enfants une à deux fois par an.
Elisabeth, comme beaucoup de mères vénézuéliennes, vit séparée de ses enfants déjà adultes qui ont demandé l'asile aux États-Unis. Face à la crise depuis 15 ans, environ 8 millions de personnes ont quitté le Venezuela.
Kim est parti, ça va faire 12 ans, et Karen, ça va bientôt faire 8 ans.
La cinquantenaire avait jusqu'à présent un visa valide, expiré en octobre. Il est en processus de renouvellement. Tous les papiers ont été envoyés à Bogota, en Colombie, l'ambassade américaine la plus proche. Il ne lui manque plus qu'un entretien au consulat, mais avec le travel ban, ses plans pourraient bien tomber à l'eau.
J'ai mon entretien le 14 janvier 2026, si Dieu le permet. Et si ça ne marche pas, je ne sais pas. Moi, je crois en Dieu, mais je le répète, je veux juste voir mes enfants.
Ces enfants ne peuvent pas rentrer au Venezuela car en cas de demande d'asile, il est logiquement impossible de rentrer dans son pays d'origine. Ils sont plus de 800 000 Vénézuéliens comme Keren et Kim, les enfants d'Elisabeth, à vivre aux États-Unis. 800 000 personnes qui ne pourront vraisemblablement pas recevoir leur famille dans les prochaines années. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et cette brusque montée des tensions entre le Venezuela et son petit voisin, l'archipel de Trinité et Tobago. Point de départ, l'annonce par Caracas de l'arrestation sur son sol de criminels d'origine trinidadienne. Les autorités de l'archipel réfutent toute implication du pays dans des actes terroristes. Depuis, les deux États menacent d'utiliser la force par déclaration interposée. Enfin, l'actualité de l'Amérique latine, c'est la terre qui a tremblé au nord du Chili. Un séisme de magnitude 6.4 a été enregistré il y a quelques heures dans la région d'Atacama. Plus de 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, a écrit le président chilien Gabriel Boric sur son compte X. Israël menace de continuer ses frappes au Liban si le Hezbollah n'est pas désarmé. Hier soir, une série de raids a été menée sur la capitale Beyrouth, la banlieue sud, bastion de la milice chiite particulièrement ciblée. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante du cessez-le-feu. Et puis les bombardements dans la bande de Gaza ont fait 38 morts aujourd'hui d'après la défense civile. Les habitants de l'enclave qui célèbrent pour la deuxième année de suite la fête musulmane de l'Aïd al-Adha dans les décombres de la guerre. Près de 15 ans après la catastrophe de Fukushima au Japon, l'affaire nucléaire continue de faire des remous. La cour d'appel de Tokyo a annulé aujourd'hui une amende de 84 milliards d'euros qui visait plusieurs dirigeants de l'opérateur de la centrale nucléaire. Une décision très contestée, Nicolas Roca.
Prenez vos responsabilités. Les banderoles des plaignants déçus par la décision du tribunal se sont affichées sur les chaînes de télévision japonaises ce vendredi. Ils accusent les quatre dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, de n'avoir pas pris suffisamment de mesures préventives. Certaines d'entre elles, comme l'installation d'une source d'alimentation d'urgence placée en hauteur, auraient pu, selon eux, éviter la catastrophe. On ne peut pas prévoir un tremblement de terre et un tsunami, répond en somme la cour avec cette décision. Les 84 milliards de dollars d'amende visaient à indemniser les résidents affectés, à couvrir les coûts de démantèlement des réacteurs et à financer le processus de décontamination. Mais les plaignants, eux, persistent et signent. Ils demandent une amende encore plus élevée. Pour leur avocat, cet arrêt du tribunal pourrait même à l'avenir conduire à de nouveaux accidents nucléaires, à l'heure où le Japon vient de décider d'allonger la durée de vie de ses réacteurs pour faire face à une demande croissante en électricité.
Nicolas Roca. En France, Olivier Faure promet de rassembler sa famille politique après les divisions du congrès du PS. Le patron des socialistes reconduit après sa victoire serrée sur Nicolas Maillet-Rossignol. Le candidat malheureux qui s'exprimait aujourd'hui en conférence de presse a appelé Olivier Faure à répondre aux attentes d'affirmation du Parti socialiste vis-à-vis de la France insoumise. Et puis on connaît l'affiche de la finale homme de Roland-Garros. Yannick Sinner rejoint Carlos Alcaraz après avoir battu Novak Djokovic dans la soirée. Eric Mamrut, vous êtes en direct du tournoi parisien pour RFI. Le numéro 1 mondial n'a pas laissé une seule manche à son adversaire.
Oui, effectivement, victoire en 3-7, 6-4, 7-5, 7-6, en 3h16, une victoire en 3 manches, certes. Il a toujours pas perdu le moindre set dans ce tournoi, Yannick Sinner, mais ça a été serré jusqu'au bout. Le Serbe a même eu 3 balles de 7 dans la 3e manche. L'Italien a sauvé les deux premières, pendant que Djokovic ratait la 3e. Le joueur de 38 ans qui est monté en puissance dans ce match, mais qui n'aura jamais réussi à se glisser dans la mini-ouverture laissée par Yannick Sinner, numéro 1 mondial toujours aussi impressionnant et clinique, qui aura plié sans jamais rompre, alors que Djokovic tentait le tout pour le tout avec le soutien du public parisien qui était majoritairement en sa faveur. Yannick Sinner qui bat pour la 4e fois consécutive l'ancien numéro 1 mondial pour s'offrir sa toute première finale à Roland-Garros. Il aura donc affaire dimanche à l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui de son côté est venu à bout de l'Italien Lorenzo Musetti 2-7-1, puis abandon de Musetti qui était blessé à la cuisse. Sinner Alcaraz, le numéro 1 mondial, face à son dauphin tenant du trophée. La finale idéale pour ce Roland-Garros 2025.
Merci Eric Mamrut. Et d'ici là, la finale dame. Demain, Aryna Sabalenka contre l'américaine Coco Gauff.